Bonjour! Bonjour! Bonjour tout le monde. Bienvenue. Ça va? Bonjour à toutes et à tous, bonjour. Désolé, je suis en retard. Désolé, excusez-moi. Plein de boulot, j'ai passé l'après-midi à faire des coups de téléphone, tout ça, tout ça. Problème de pognon, on a besoin de fric pour Backseat, tout ça. Attends. J'aimerais vraiment soutenir Backseat, mais je suis étudiant galérien. Je peux juste regarder les pubs sur des vidéos YouTube en révisant. C'est déjà bien, je te remercie. Comment va Zara? Elle va bien, elle t'embrasse. Le petit chat va bien. Maintenant, ce que j'essaye de faire avec le petit chat, c'est d'essayer de créer la rencontre. Parce que c'est un petit chat craintif, donc elle m'a jamais vu en fait techniquement. Vu que dès que j'existe, elle se barre et tout machin. Donc elle connaît mon odeur, elle connaît ma voix, mais elle m'a jamais vu. Du coup, le soir, je m'allonge sur mon tapis au milieu du salon et j'attends qu'elle sorte. Et pour voir si elle s'approche de moi, si elle vient dire bonjour, etc. Et du coup, hier soir, alors la première fois que je l'avais fait, elle était venue, elle avait passé une tête, elle avait vu que j'étais allongé sur le tapis, elle s'est cassée en courant. J'ai dit, bon, ok, échec. Et hier soir, j'ai recommencé, elle s'est pas cassée en courant. Je la regardais pas, j'entendais sa respiration. Elle s'est pas rapprochée de moi, mais elle était là. Et puis elle est partie. Et j'ai réessayé plus tard dans la nuit. Et là, par contre, elle s'est barrée. Voilà. Donc ça va le faire. Petit à petit, on avance. Qu'est-ce que tu faisais donc sur le tapis? Bah, j'essayais d'éviter d'être debout pour pas lui faire peur. Je me mettais à son niveau, allongé par terre. Pas loin de la porte de la cuisine, comme ça si elle voulait passer une tête, machin, et voilà. Vraiment timide, petit chat. Ah ouais, tout timide, ouais. J'ai cru que tu parlais de Barbara. Non, Barbara Pompili, elle a pas peur de moi, non. Donc voilà. Ça fait combien de temps que t'as ton chat? Ça fait 2 semaines, 2 semaines et demie. Un petit souci de mèche. Ouais, c'est le bordel, là, qu'est-ce qu'il y a? Oh! Merci Pump. Merci Fancatsim pour ton resub. On peut voir le petit chat. Bah non, 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 bah non, 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 vous pouvez pas. Moi-même, je peux pas la voir. Vous allez pas la voir, vous non plus. Hein, ça, je vous rassure. J'imagine Jean en position princesse Leia. Donc, je vais continuer à faire des petits tests comme ça. Peut-être que demain. Peut-être que ce soir, je vais me réallonger, mais cette fois-ci, je vais mettre la pâtée devant moi, genre à 1 mètre, pour voir si elle mange devant moi ou pas. Je vais rester allongé sur le tapis en attendant. Essayer avec des friandises. Ouais, je vais essayer. Étale-toi la pâtée sur toi, tu verras. Perso, ça me stresse quand on me regarde manger. Oui, je pense aussi. Comme le gouvernement avec les amendements des Républicains. Bon, non, mais je sais pas. Je vais continuer à essayer de lui proposer des rencontres comme ça. En mode, tu peux t'approcher de moi, je reste. Je bouge pas. Je te regarde pas, je bouge pas, je suis là. Tu peux venir t'approcher, renifler. Je sais pas, peut-être qu'un soir, à force de le faire, elle va s'approcher de moi, elle va. Me renifler, puis se barrer, et là je dirais, bah, c'est bien, on a progressé, ça avance. À ne pas sortir de son contexte. Ça va venir. Bah, ouais, non, ça va venir. Non, mais je vous ai dit, il y a déjà du progrès parce que. Ah, merde, il y avait une réunion à 17h30. Ouais, mais non, mais bon. Ouais, non, non, je vous disais, il y a du progrès parce que entre le moment quand je me lève de mon lit et que je vais dans la cuisine, par exemple, elle, évidemment, elle disparaît, elle retourne au fond de sa cachette en speed. Elle veut pas me voir, elle a peur. Mais quand je retourne dans mon lit, elle met 5 minutes à ressortir de sa cachette pour vivre sa vie. Donc c'est bien. Avant, elle mettait 2 heures, maintenant c'est 5 minutes. Donc elle a de moins en moins peur. Ça avance petit à petit. Merci du Gomieux pour ton resub. Merci Tofu the Squirrel pour ton resub aussi. Merci à vous. Ça va être pareil à l'apéro Lyon, tu vas nous attirer avec le pâté, exactement. Ouais, les Lyonnais, on boit des coups jeudi soir, hein, vendredi, samedi soir, je vous rappelle. Merci Super Matou. Mon chat a mis 7 mois à s'habituer à moi, franchement, ça peut prendre du temps. Ouais, je sais, bah, je m'attends à ce que ça prenne du temps. Mais là, il faut que j'appelle l'association d'ailleurs, parce que. Journée du 26. Excusez-moi, hein, j'enchaîne les réunions. C'est à partir de quelle heure? C'est sur le Discord. Vous allez sur le Discord. Vous allez sur le Discord et vous allez chercher apéro IRL. Vous verrez, c'est annoncé, c'est expliqué. Il y a un événement, tout ça. Vous aurez toutes les horaires. Pour ceux qui veulent venir se promener, parce qu'on va commencer par se promener en début d'après-midi, et après on se retrouve dans un bar à 18h et on passe la soirée dans le bar. Donc vous venez quand vous voulez, vous venez à l'heure que vous voulez, vous venez avec qui vous voulez, peinard, c'est open, voilà. C'est qui les chroniqueurs demain? C'est sur Twitter, c'est annoncé. Elle a quel âge la potite? Le petit chat, il a 6 ans. Le petit chat, il a 6 ans. Donc ouais, donc samedi à Lyon, on va se promener sur les bords de la Garonne, ça va être sympa. Et puis on va boire des coups et ça va être cool. C'est open bar. Non, commence pas, tu payes ta bière, t'es gentil. Taper dans des casseroles. Vous pouvez venir avec vos casseroles si vous voulez. Ouais, du coup, Emmanuel Macron, il a commencé ses déplacements parce qu'il voulait retourner au contact des Français après la séquence retraite. Il est en déplacement en Alsace, là, je crois. Et ben, il s'est tapé des bains de foule avec des gens qui le critiquent, avec des casseroles, des Macron démission, etc. Je sais pas s'ils se rendent compte que ça va durer encore 4 ans, hein, cette histoire. Je sais pas si, mais si Macron se rend compte du niveau de divorce qu'il y a, si chacun de ses déplacements est perturbé, plus aucun bain de foule qui est possible et tout. Il a réussi à se faire chahuter en Alsace, faut le faire, ouais, grave. Donc ouais, non, clairement, c'est une catastrophe absolue, mais moi qui le déteste, j'ai mal pour lui. Je sais pas exactement ce qui se dit dans sa tête. Est-ce qu'il se dit que la pression va finir par retomber? Je sais pas. Le fameux apaisement tour. Ouais, c'est ça. La tournée d'apaisement. La tournée d'apaisement commence par de l'attention. Coupure de courant dans l'usine, ouais, j'ai vu. Non, non, mais c'est. Chacun de ses déplacements risque d'être teinté de ce genre de truc. Tiens, d'ailleurs, il y a eu une indiscrétion dans la presse. Parce que là, évidemment, tous les journalistes commencent à réfléchir à c'est quoi la suite? Comment ça va se passer? Est-ce qu'Elisabeth Borne va rester? Oui, non, comment, etc. Et y a un journaliste qui a dit l'option Sarkozy Premier ministre. Nicolas Sarkozy, Premier ministre. Et moi, quand on me l'a dit, j'ai fait. Eh mais attends. Qui peut réussir à créer l'unité chez les Républicains pour qu'ils votent les lois? En vrai. En plus, petite immunité. Non, il n'y a pas d'immunité quand t'es ministre. Hein. Non, ça marche pas comme ça. C'est juste les parlementaires et le président de la République. Dans quel monde il dit oui à ça? Bah, Nicolas Sarkozy, il fait partie de ces anciens, politiques qui ont envie de redevenir politique un jour. Évidemment que Nicolas Sarkozy n'a jamais digéré sa défaite de 2012. 10 ans plus tard, il revient. Alors bon, évidemment, il a 1 milliard d'affaires au cul et de casseroles, etc. Donc de toute façon, les gens qui le détestent déjà. Donc de toute façon, son enjeu, il n'est pas là. Puis de toute façon, il vient pas pour être populaire. Hein. Il redevient Premier ministre, et peut-être même que dans sa tête, il imagine qu'il y a un monde dans lequel, en 2027, il est le recours. Moi, j'ai toujours considéré que Nicolas Sarkozy, c'était un mec incapable de s'arrêter de faire de la politique. Il vit à 200 km/h, il a une énergie débordante, et tout, c'est Nicolas Sarkozy, quoi. Tu peux pas l'empêcher d'avoir envie. Il a essayé de revenir en 2016, il s'est pété la gueule, il a dit qu'il ne reviendrait plus, qu'il allait se barrer, etc. Mais là, le côté. En plus, il y a le côté recours, tu sais. Les politiques, ils adorent ça. Le recours. Face à une situation inextricable, on fait appel à moi. Macron pourrait jamais prendre Sarko comme Premier ministre, ils ont tous les deux trop d'ego. Alors ça, c'est sûr qu'un Nicolas Sarkozy Premier ministre, c'est plus compliqué que n'importe qui d'autre. Hein. C'est effectivement un ancien président de la République, un mec à poigne comme Nicolas Sarkozy. Il risque d'avoir des tensions entre l'Élysée et Sarko. On serait pas loin de la cohabitation. Je sais pas. Ça s'est déjà vu un ancien président Premier ministre? Non, jamais. Non, non, jamais. Sarko au gouvernement, ça tient 3 mois, pas plus. Bah, ça dépend. Ça dépend. Si Nicolas Sarkozy négocie avec les Républicains son retour au gouvernement, en disant je mène une politique proche des Républicains, vous votez mes lois et tout. Si Nicolas Sarkozy réussit à avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Let's go, hein. Le problème de Macron pour l'instant, c'est ça. C'est l'Assemblée nationale. C'est pas vous, hein. Je rappelle que vous n'êtes pas un enjeu, vous, hein. Vous détestez Macron, de toute façon, quoi qu'il fasse, vous serez contre. Donc vous, c'est pas un enjeu, hein. Le but, c'est pas de vous raccorder à quoi que ce soit. Hein. De toute façon, vous êtes contre. De toute façon, vous tapez sur des casseroles, alors. Donc, faute de majorité. Qui a des moyens politiques pour construire une majorité? Bah Sarkozy, s'il réussit à négocier avec les Républicains, quoi. Du coup, Sarko serait sous l'étiquette Renaissance. Sarko serait sous aucune étiquette. Il s'en fout. Il n'y a pas besoin d'étiquette. On s'en bat les couilles. C'est pas le sujet. Il n'y a pas d'étiquette. On imagine juste un scénario dans lequel Nicolas Sarkozy serait nommé Premier ministre parce qu'il est potentiellement l'un des seuls à être capable de créer une majorité entre Renaissance, entre la majorité relative macroniste et les républicains dont ils ont besoin pour construire une majorité et voter des lois. Il n'y a pas besoin d'étiquette, on s'en fout. Je vous rappelle que quand, comment il s'appelle, Édouard Philippe était Premier ministre, il n'était pas membre de La République En Marche, hein. Il n'était pas adhérent du parti, on s'en fout. Ni Castex, oui d'ailleurs, Jean Castex non plus. Et l'aile gauche de Renaissance qui était avec Hollande. Bah, l'aile gauche de Renaissance, j'ai envie de te dire, bon, on demandera demain à Barbara Pompili, mais ils ont déjà accepté un nombre de trucs incalculables. À un moment, ils font peur à personne. Hein. Puis bon, c'est pas parce qu'il y a 10 députés qui se barrent en disant non, on veut pas de Sarko que ça va remettre en cause l'équilibre, tu vois. Donc, bon. Donc voilà. Je commence à échafauder dans ma tête des plans et je me dis en vrai ce scénario-là il me ferait marrer. Ce scénario-là il me ferait marrer, on verra. Wauquiez ne le tolérerait pas. On s'en branle de Wauquiez. C'est pas un enjeu, Wauquiez. C'est pas lui le patron du parti, hein. Wauquiez, il se prépare pour 2027, mais il se prépare pour reprendre la candidature de Pécresse qui a fait 2%. Donc, si tu veux, j'ai envie de te dire. Pour Sarkozy, Wauquiez, c'est pas un enjeu, hein. Rien à foutre. Ce scénario m'angoisse. Ouais, non, mais je vous ai dit, c'est pas vous l'enjeu, hein. Sarko accepterait d'être collaborateur. Oh, t'imagines? Attends, scénario. Emmanuel Macron nomme Nicolas Sarkozy Premier ministre. Et dans une interview, il dit mon collaborateur. Il parle de Sarkozy comme de son collaborateur. Pour ceux qui n'ont pas la ref, Nicolas Sarkozy, président de la République, il avait désigné son Premier ministre, François Fillon, comme son collaborateur. Et ça avait été beaucoup critiqué à l'époque, l'hyper-présidence de Sarkozy, machin, 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 etc. L'arroseur a arrosé. Mais vous fumez, monsieur. Si Sarko revient, Wauquiez quitte le parti comme il veut le faire et moult électeurs avec lui, je pense. Mais quels électeurs? Quels électeurs? De quoi tu parles? Y a pas d'électeurs chez LR. Sarko a beaucoup trop d'ego. Non, mais alors ça, par contre, je suis d'accord. Non, mais alors ça, attendez, moi, je vous dis pas que c'est une idée parfaite, hein, parce que je pense que Nicolas Sarkozy, il est très très compliqué comme Premier ministre, hein. Donc, je sais pas, j'en sais rien. J'essaie de. Moi, j'essaie d'aider, hein. Moi, j'essaie de trouver des solutions, hein. Il y a toutes les huiles de Renaissance qui sont en train de réfléchir là. Qu'est-ce qu'on fait pour l'avenir de demain? Bon, tu regardes la politique qui est menée par Macron. Bon, bah Sarkozy, il est d'accord. Clairement, hein. Pro-européen, retour du nucléaire, anti-Poutine, machin. Enfin, bon, il y a un moment, ça roule, quoi. D'ailleurs, Sarkozy lui-même l'a dit en 2022, l'année dernière, il a rejoint entre les deux tours Emmanuel Macron. À vous, t'en rêves juste pour le fun, bien sûr. Est-ce qu'on peut pas penser à des personnes moins de droite pour ce poste? Eh ben, regarde l'Assemblée nationale et essaye de me trouver une autre solution. Encore une fois, hein, le but du jeu, c'est l'Assemblée nationale. Hein. C'est d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale. C'est pas que ça te plaise à toi. Hein. Donc on verra. Vous avez entendu parler d'un certain Manuel? Vous connaissez Manuel Valls? Mélenchon et Alliance NUPES Renaissance. Eh ben bon courage. Bon courage. Mélenchon Premier ministre, bah vas-y, trouve une majorité, vas-y. Mélenchon qui est minoritaire, il va essayer de trouver une majorité, bah bon courage. Catherine Vautrin, le retour. Peut-être, non, mais alors peut-être, hein. Catherine Vautrin, le retour, mais enfin bon, Catherine Vautrin, pareil, même question, comment est-ce qu'elle fait pour avoir une majorité? Osef d'une majorité. Bah non, pas Osef d'une majorité, tu vois bien la séquence qu'on est en train de passer là. On a besoin d'une majorité. Enfin, quand je dis on, n'importe qui a besoin d'une majorité. Personne n'a de majorité aujourd'hui, donc comment tu la fabriques? Hollande, Premier ministre. Il y a combien de députés qui soutiennent François Hollande? 4. À tout péter. Il faut combien de députés pour faire une majorité? 289. Bon courage. Bon courage. C'est un début. Ah, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Charles de Courson. Ah, vous êtes en train d'imaginer un gouvernement d'union sur la base des personnes qui ont voté la motion de censure de Charles de Courson? Ça veut dire que vous mettez les insoumis et le RN dans le même gouvernement? Partez devant, hein. Partez devant, je vous regarde. Faut arrêter l'alcool si tôt. Et Timothée Chalamet? C'est vrai ça, personne n'a pensé à Timothée Chalamet. Mais c'est vrai ça, Timothée Chalamet, Premier ministre. Timothée Chalamet, Premier ministre. C'est vrai. Omar Sy, sinon. On met Omar Sy. Omar Sy, Premier ministre. Ou Thomas Pesquet. Alain Chabat. Non mais on essaye de trouver là, les gars, on essaye de trouver, hein. Faut être. Voilà. Jean-Jacques Goldman, Idriss Elba. Jean-Luc Reichmann, Kylian Mbappé, bien sûr. Non, non, mais voilà, faut. On essaie de créer de l'unité là. Hein. Vous êtes gentil, on avance. Johnny Hallyday, c'est moche. Zidane, Francis Lalanne, non. Jean-Marie Bigard, Yannick Noah, Blanche Gardin, voilà. Roger Federer. Non mais nous on essaie de trouver des solutions. Hein. Il y a un moment où voilà, le pays est fracturé comme jamais. On essaie de trouver un Premier ministre consensuel. Sarko, visiblement, on s'appelait qu'à lui-même. Voilà. Qui peut créer une majorité à l'Assemblée là? Squeezie. Squeezie. Antoine Daniel, Premier ministre. Est-ce que c'est obligatoire un Premier ministre? Oui. Oui, c'est obligatoire. Oui. Mario Bros, Premier ministre. Christine Lagarde. Alors, j'ai entendu parler de Christine Lagarde. Hein. Christine Lagarde, Première ministre. Qu'est-ce qu'elle aura envie de se foutre dans cette galère, Christine Lagarde, putain. Elle a déjà été ministre des Finances. Elle a été patronne du FMI. Aujourd'hui, elle est à la tête de la BCE. Est-ce que t'as vraiment envie, quand t'as été ce genre de personnage mondial, enfin qui s'occupe de l'économie mondiale toute la journée pendant 10 ans, est-ce que t'as envie de redescendre au niveau d'un pays qui s'appelle la France, charmant au demeurant, c'est pas le sujet? Mais dans lequel tu vas t'emmerder à rendre des arbitrages sur le SNU et la réforme du bac pro. Sais pas. Jancovici. Jancovici, Premier ministre. Ouais. Ah, il va faire une interview au 20h, il va expliquer que les Français sont des gros cons, qu'ils n'ont rien compris, que c'est quand même pas compliqué. Regardez, c'est physique, ça marche comme ça, pas autrement. Je pense qu'ils vont adorer les Français. Ils vont adorer. Oui. Je pense c'est la manière de leur parler en ce moment. Jancovici, c'est le bon moment. Vous vouliez un gouvernement de techno? Bah voilà, regarde. Les chantres de la technocratie là qui passent leur temps à me dire il suffit de filer les clés à des experts, ils ont les bonnes solutions. Bah voilà, vous mettez Jancovici. Merci Don Music pour ton resub, merci. Laurent Berger, il est libre depuis ce midi. Non, Laurent Berger, il va quitter la tête de la CFDT, mais ça, on le savait déjà, il l'avait déjà annoncé. Il va quitter la tête de la CFDT en juin prochain. Donc du coup, il a annoncé aujourd'hui qu'il allait être remplacé par sa numéro 2. Et du coup, à mon avis, ils veulent profiter justement du boost du 1er mai pour mettre en avant sa remplaçante. Jacques Delors. Allez, Jacques Delors. On va chercher Jacques Delors. Il l'a pas dit dans Backseat? De quoi, qui ça? Laurent Berger? Non, je suis pas sûr. On lui a posé une question là-dessus à Laurent Berger, je crois pas. Jack Lang. Ouais, Jack Lang. Personnalité politique préférée des Français, Jack Lang. Jean Moscovici, non mais Moscovici, il est premier président de la Cour des comptes. Qu'est-ce qu'il va s'emmerder à rentrer au gouvernement? Moscovici, putain. Qu'est-ce qu'il s'en branle? Oh, le mec, il a été commissaire européen. Oh, ciao, bye bye, hein. Yaël Braun-Pivet, mais elle n'a pas de majorité, Yaël Braun-Pivet. Hein. Elle a une majorité relative, c'est tout. Flory dit parti pirate. Oui, mais ça, c'est normal, c'est Flory. C'est oui. Ah, Flory du parti pirate. Eh bah, ben, elle a quoi comme majorité? Non, non, mais c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Mettez-vous à la place de Macron 2 minutes. Essayez de trouver un Premier ministre qui crée une majorité là. Comment vous faites? C'est peut-être impossible. C'est peut-être impossible. Hein. De Courson. Il a pas de majorité, De Courson. Qu'est-ce que tu racontes? Dissolution, ça va plus vite. Bah, dissolution, t'as Marine Le Pen, Première ministre, dans 1 mois et demi, ouais. C'est l'autre solution. Et encore, Marine Le Pen, faut qu'elle crée une majorité, elle aussi, hein. Si c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Ah bah rien, il se passe rien. Il n'y a plus d'initiative politique, il n'y a plus de réforme. C'est ce qu'on appelle un blocage institutionnel, hein. On sera ni le premier ni le dernier pays à connaître un blocage institutionnel. Jean Massier à la majo directe. Mais tiens, mais j'aurais aucune majorité à l'Assemblée nationale aujourd'hui, t'es fou toi. En vrai, Pradier, c'est pas con. Pradier qui vient de voter une motion de censure contre. Mais bien sûr que non. Mais Aurélien Pradier, il a aucune majorité à l'Assemblée nationale. Il est détesté par son groupe, enfin par une partie de son groupe. Darmanin a la majorité. Bah, le problème de Darmanin, c'est que il n'est pas apprécié par les Républicains. Hein. Darmanin, Bruno Le Maire, moi je veux bien, mais les Républicains. Je vous rappelle que ce qui reste chez les Républicains, c'est des gens qui n'aiment pas Renaissance et qui sont pas avec eux. Donc, vous avez bien vu toutes les difficultés qu'a eu Éric Ciotti à négocier la réforme des retraites. Il n'a même pas réussi à réunir son propre groupe. Alors, Sarkozy en rêve. Ouais, on en a parlé tout à l'heure, l'option Sarkozy. Le plus à même de réunir les Républicains. Derrière un projet de gouvernement en lien avec Renaissance, c'est Sarkozy. Et encore. Et encore. Édouard Philippe? Bah non. Édouard Philippe, il n'y a que les députés Horizon qui sont avec lui, hein. Ils sont pas nombreux, hein. Comment convaincre que l'extrême droite serait pire que ce que nous fait Macron en ce moment? Je sais pas, ça dépend à qui tu parles. Est-ce que la solution la plus simple pour Macron, ce serait pas l'immobilisme à la Chirac dans la fin de son mandat? Bah en fait, c'est même pas une solution, c'est-à-dire que peut-être qu'Emmanuel Macron va être contraint et forcé à l'immobilisme. Axel Le Maire. Ouais, Axel Le Maire, Premier ministre, ouais. Ouais. Bon bah non mais je sais pas hein, on essaye de j'essaie de trouver une solution. J'essaye d'aider moi hein. S'il se passe rien à l'immobilisme, on va s'ennuyer dans Brexit, présente-toi. Oh non. Possible de prendre un sénateur genre Bruno Retailleau. Bah, c'est exactement ce qu'avait fait Chirac, justement. C'est exactement ce qu'avait fait Jacques Chirac dans la deuxième partie de son quinquennat, de son. C'est qu'il avait nommé Jean-Pierre Raffarin. Jean-Pierre Raffarin, c'était un sénateur inconnu. Les Français ne le connaissaient pas. Il l'avait nommé Premier ministre. Et c'était. Voilà, c'était la fin de quinquennat. C'était pas la fin, parce qu'en fait c'était le référendum de 2005, donc en fait c'était avant ça. Après, il a mis de Villepin, le camp Chirac a mis de Villepin pour essayer d'empêcher la montée de Sarko, mais ils n'ont pas réussi. Libé disait Darmanin le cornu ou Gérard Larcher. Non mais Gérard. Darmanin le cornu, ouais. Darmanin il veut. Mais le cornu, ouais, possiblement le cornu, ouais. Mais toute façon, c'est un Premier ministre sans majorité. Qui connaît le cornu? Bah personne, justement, c'est au point où on en est. C'est qui le cornu? C'est le ministre des armées. Le cornu est pas assez charismatique. Bah justement, on cherche plus quelqu'un de charismatique là, hein. Pour où on en est, de toute façon, c'est pour un gouvernement d'immobilistes qui n'a pas de majorité, qui ne peut rien faire passer. Un nouveau mec administratif comme Jean Castex, on ne le connaîtra pas. Ouais, voilà. Bah, Jean Castex, c'était un peu ça. C'était comme ça que ça avait été analysé, Jean Castex. Hein. La meuf dont a parlé Quotidien qui voulait Macron au début de droite, Catherine Vautrin. Mais Catherine Vautrin, je ne sais pas si elle aurait une majorité. C'est quoi le souci avec Borne? Bah, c'est qu'elle n'a pas de majorité. Voilà. Elisabeth Borne n'a pas de majorité pour réformer. Nicole Nota. Alors tu rigoles, mais Nicole Nota, y en a qui en parlaient en 2017. Bon, bah moi j'essaye d'aider, hein. Du coup, ça va bidouiller, c'est sûr. Tu penses que Macron va dissoudre son immobilisme? J'en sais rien, je constate que Macron n'a pas vraiment le choix, en fait. Enfin, il est bloqué, parce que s'il y a une dissolution, ça, y a que le RN qui en bénéficie, semble-t-il. S'il n'y a pas de dissolution, bah, il n'arrive pas à faire de réforme. Donc il est condamné à l'immobilisme, ce que lui ne peut pas accepter. Il peut toujours démissionner, mais ça ne changerait rien. Si tu mets quelqu'un du PS, t'aurais le PS plus La République En Marche, donc majorité. Bah oui, mais non, parce que le PS aujourd'hui, sous Olivier Faure, le PS, il est dans la NUPES. Donc le PS aujourd'hui, il adhère à un projet de rejet de la réforme des retraites. Enfin, donc, en fait, tu peux pas faire une majorité avec des partis qui proposent des trucs aussi différents l'un de l'autre, quoi. C'est pas, en fait, c'est ça le problème, c'est que c'est pas juste une arithmétique. C'est un projet politique derrière. Ne va-t-il pas utiliser le 49-3 pour passer des lois, même sans majorité? Bah, on a bien vu là avec la réforme des retraites que quand bien même le 49-3 peut être utile pour faire passer institutionnellement des réformes ambitieuses, d'un point de vue d'équilibre démocratique et de situation politique, ça ne règle rien, voire même ça empire. Donc en fait, passer outre le blocage institutionnel ne suffit pas à embarquer le pays, et à rassembler, etc. Donc, ça, ouais, c'est ça, c'est un coup politique. Comme dit Samus, effectivement, c'est un coup politique phénoménal. Donc, il aurait fait une vraie réforme des retraites, on parlerait même pas de blocage. Je sais pas ce que c'est une vraie réforme des retraites dans ton esprit, mais. Et un mec du RN, ça aurait pas de sens pour avoir une majorité. Bah non. Encore une fois, c'est pas qu'une arithmétique. Tu feras pas voter les députés Renaissance avec les députés RN sur des projets de loi sur lesquels ils sont d'accord. Regarde, sur les retraites, ils sont pas d'accord. Économiquement, ils vont pas l'être non plus. Sur les sujets sociétaux, je t'en parle même pas. Sur l'Europe, sur le soutien à Poutine et tout. Non, non, je te jure, y a pour la peine de chercher, hein. Les gens voulaient la proportionnelle pour les législatives, on a une Assemblée nationale qui ressemble vaguement à ce que pourrait donner la proportionnelle. Exactement. C'est exactement ce qu'on avait dit en juin dernier en disant, bah putain, tout ça pour ça. Comme quoi? Hein? Les gaullistes qui nous pètent les burnes depuis 50 ans en nous disant, regardez, le scrutin majoritaire, c'est la garantie d'avoir des majorités stables. Bravo! Voilà, scrutin majoritaire, pas de majorité. Super, super, super! On a le sens de l'humour en France en même temps. C'est vrai. Les Français ont le sens de l'humour. Majoritaire pour le président. Ah non, majoritaire tout court. Proportionnel, on aurait Zemmour à l'Assemblée. On aurait Zemmour à l'Assemblée avec un scrutin proportionnel, ouais. Bon, il aurait quelques députés avec lui, pas beaucoup, mais oui. En vrai, on frôle la paralysie systémique, vu qu'il y a une pseudo-élection proportionnelle avec une majorité relative, mais zéro culture et volonté de coalition NCO. Alors c'est le problème, effectivement, de la culture politique qui accompagne le scrutin proportionnel, c'est la volonté de bosser ensemble et tout. Disons qu'en 70 ans de 5ème République, on a un peu perdu l'habitude de travailler ensemble entre groupes politiques. Oh, remarque, la NUPES a démontré une capacité. Mais en même temps, c'est toujours pareil, hein, c'est facile de faire l'union dans l'opposition. La NUPES, elle est unie dans l'opposition à Macron. Bon, très bien, mais en fait. Le but du jeu, c'est pas d'être uni dans l'opposition, c'est d'être uni dans une majorité future. Et alors là, bon courage. Les sujets qui fâchent au sein de la NUPES, il y en a suffisamment pour montrer que c'est pas demain qu'ils vont gouverner ensemble, ces gens-là. Hein. Ça tire à balles réelles. Non, je tire pas particulièrement contre la NUPES, hein. Je constate que, d'ailleurs, les gens de la NUPES disent la même chose que moi, hein. Ils sont assez d'accord avec moi pour dire ouais, non, pour l'instant c'est cool. En gros, c'est un pacte de non-agression, la NUPES. On s'est foutu sur la tronche pendant toute la présidentielle. On a fait un pacte de non-agression, ce qui nous a permis d'arriver en force à l'Assemblée, on est content. Mais en fait, on n'est pas prêt à gouverner le pays, hein. On est d'accord sur pas grand-chose. Sur l'Europe, sur le nucléaire, sur l'économie, enfin bon. J'ai toujours trouvé que le son de ton stream était plus bas que tous les autres streams. Peux-tu augmenter un peu? Quoi? Mais non, il est pas plus bas. Ça module dans le jaune, là. Le son de mon stream, il est bas? Non. Si, un peu. Ah ouais? Perso, c'est bon. Non, non. Non, is ok. Le son est correct. Non, il est parfait. Je trouve aussi. Le son est ok. Par rapport aux autres streams? Mais. Si? C'est ok. C'est nickel. Is ok. Non. Top comme ça le son. Genre 10%. Ça dépend par rapport à qui. Qu'est-ce qu'il dit, Pemph? Au montage, je dois toujours te rajouter 2 décibels, surtout que t'as des basses pas mal boostées. Ah non, en plus, non, dis pas ça, j'ai retiré les basses boostées. Justement, parce que vous m'avez fait chier. Non, l'equalizer, il est à zéro partout. Arrêtez de me parler des basses, hein, j'ai changé. J'ai un gate à 10, mais ça, c'est normal. Le compresseur, ça, c'est normal. On est à 50 décibels de gain. Allez, allez, je vous le mets à 53 décibels. Voilà. Voilà. Comment je fais pour enregistrer? Save. Voilà, c'est sauvegardé. C'est trop fort. Ah non, je vais vous. Non. Non, ça suffit maintenant, hein. Ton micro a un effet de proximité, donc beaucoup de basses et de formants qui ressortent. Baby did a bad bad thing. Baby did a bad bad thing. Baby did a bad bad thing. Putain. C'est vrai, j'ai une voix de crooner. Trop fort. Mais non, c'est pas trop fort. Voilà, j'ai baissé le retour de mon casque. Vous devriez faire pareil. Barry White. Il y a une solution, achète un Shure. Un SM7B? Mais c'est très bien le pod mic. Pourquoi vous m'emmerdez aujourd'hui avec le son là? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez qu'on se batte? C'est très bien que tu boostes les basses à fond pour rendre ta voix plus sexy et nous séduire. Mais non! Aucun souci de son ici. Bon bah voilà. C'est les casseroles. Vous êtes casse-couilles. Jamais content de toute façon, hein. Jamais content. Alors déjà que ça a changé l'humour dans les élections. Je note que vous faites des critiques sur la forme, mais personne ne remet en cause le fond. Ce que je dis a pas l'air de vous déplaire. Et toc! Tout ça pour changer de sujet. On est juste là pour l'ASMR. On l'entend pas le fond. De quoi on parlait déjà? Je sais plus de quoi on parlait. On essaie de trouver des solutions à la crise démocratique. Et vous, de façon, comme vous voulez pas de solution, vous vous repaissez des difficultés des Français. Bah, vous m'avez emmené sur des sujets de polémiques politiciennes. On veut Méluche. Bah oui, mais vous êtes pas majoritaire, les gars. Faut travailler pour trouver une majo. Hein. C'est pas en tapant sur des casseroles que vous allez trouver une majorité. Hein. Allez, faut bosser. Genre comme Macron, faut bosser pour trouver une majorité, mais bien sûr. À combien de subs Meluche à Matignon? À 20 millions de bulletins? Trois cent mille voix. Le problème de la gauche, c'est Roussel. Ah bah putain, vous êtes mal barré pour trouver une majorité si vous commencez à vous cancel entre vous. Eh hein. Les gars, le rassemblement là. Faut bosser, faut ouvrir les bras, faut travailler, faut. Bon les gars, on est minoritaire. Comment on fait pour devenir majoritaire? Moi je propose qu'on commence par virer de chez nous un certain nombre de personnes. C'est bien. Non, c'est une bonne idée, ça nous rapproche de la majorité, t'as raison. C'est un bon début. C'est un peu l'épisode de Kaamelott, on va faire une liste des cons. Une fois que tout le monde sera sur la liste, qu'est-ce qu'on fera? Bon bah. Elle est mal barrée la gauche. Ah bah ça. Ce sera intéressant d'entendre jeudi le point de vue de Barbara Pompili sur la majorité présidentielle. Absolument. Donc demain, on reçoit Barbara Pompili sur le plateau de Backseat. Je suis content qu'on la reçoive à nouveau parce qu'elle était déjà venue sur le plateau de Backseat quand elle était ministre de la transition écologique. Et donc on la reçoit demain. Et je suis très content qu'elle vienne parce que elle est redevenue députée maintenant. Et c'est une députée qui est plutôt critique envers le gouvernement. Et du coup, ça va être intéressant d'avoir son point de vue à elle sur la séquence politique, sur les retraites, sur justement cette difficulté de trouver une majorité, sur la méthode de gouvernement, sur le 49-3, etc. Elle a signé une pétition pour soutenir la Ligue des droits de l'homme. Ça va être intéressant. Ça va être intéressant. Moi, j'ai hâte d'avoir son point de vue sur pas mal de sujets d'actualité, y compris d'ailleurs sur des sujets de transition écologique, hein. Il y a des sujets sur les néonicotinoïdes, qui, pour le coup, est un sujet sur lequel elle a beaucoup travaillé. Le retour sur la conscience citoyenne pour le climat aussi, qui a irrigué sa loi climat-résilience. Donc la méthode, du coup, des conventions citoyennes. La loi de transition énergétique et le relancement de nouveaux projets d'EPR, le nucléaire, etc. Ouais, non, carrément. Carrément, moi, je suis très content qu'on reçoive Barbara Pompili. Ça va être cool. C'est à quelle heure Backseat? Comme tous les jeudis, c'est à 19h. Ça va pas changer. Ce sera qui les chroniqueurs demain? Antoine Bristiel, de la Fondation Jean Jaurès, Malek Délégué. Et on sera avec une nouvelle chroniqueuse qui s'appelle Latifa. Latifa qui travaille au Bondi Blog. Journaliste au Bondi Blog. Et ce sera sa première fois en tant que chroniqueuse et je suis très content. Ça va être cool. Elle a pas de nom, si elle a un nom, mais je l'ai plus en mémoire là tout de suite. On en est où niveau budget? C'est la merde. C'est compliqué niveau budget. On attend la réponse du CNC d'ici la fin de la semaine. On croise très fort les doigts pour que ça marche. Et on est en train de travailler avec KissKissBankBank pour trouver une solution pour permettre de faire des dons ponctuels, parce que pour l'instant, il n'y a que les dons, il n'y a que les abonnements mensuels que l'on peut avoir sur le KissKissBankBank. Donc on est en train de voir avec eux pour une solution pour faire des dons ponctuels, parce que pour l'instant, ils ont un système où c'est soit une cagnotte, soit un abonnement mensuel. Nous, on a besoin de merger les deux en même temps. On a créé un Wiz Event pour que vous puissiez prendre des places. D'ailleurs, si vous voulez venir dans le public, venez. Venez, venez, venez dans le public. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et on est aussi en train d'essayer de trouver une solution pour ouvrir un shop, parce que ça vous avait bien plu, le shop, et du coup on a envie de relancer un shop avec des t-shirts, avec des trucs cool, etc. On est matérialiste, we need the shop. Non, et puis en plus, c'est bientôt l'été. Vous allez vouloir être méga canon à la plage. Vous avez déjà le summer body de rêve. C'est à nous maintenant de le pimper avec des t-shirts, avec des shorts, avec des bonnets, avec des casquettes, avec des chaussettes, avec des tongs, etc. Donc, on va essayer de vous trouver un shop cool. On a plein d'idées pour vous proposer, pas que des t-shirts avec écrit Baxit, parce que vous savez que vous êtes les plus beaux et les plus belles quand vous avez un t-shirt Baxit. Ça, c'est vrai, hein. Ça, c'est vérifié. J'en ai croisé parmi vous dans des bars, à la gare, dans des événements avec un t-shirt Baxit. Vous êtes sexy as fuck, hein. Mais donc, voilà, on voudrait aussi vous proposer des designs un peu sympas, un peu jolis. Voilà quoi. L'éco-cup. Ah non, mais moi, si ça tenait qu'à moi, je serais très content qu'on puisse vous proposer des éco-cups, des mugs, des capotes, des strings, des t-shirts, des sweats, des pantalons, des shorts, des tongs, des bonnets, des casquettes, des lunettes. Moi, j'aimerais bien vous proposer plein de trucs. Maillot de bain plus Bob. Non, mais en vrai, ce serait trop bien, t'imagines? Petit ensemble maillot de bain Bob. Un tapis de souris? Un tapis de souris, Baxit. Une serviette de plage, ouais. On pourrait sortir un Bob avec écrit ça tape. Non, attends, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme jeu de mots débile? Bon, de toute façon, j'aurais besoin de vos idées hein, pour lancer du merch un peu débile. Avec des blagues et tout. Mais attention, des blagues qu'on peut porter. Du savon, en vrai, c'est trop marrant, du savon. Enfin, putain, on sort un savon Baxit. Avec écrit frottez bien. Un déo Baxit pour l'hygiène. Frottez bien. À frotter. Voilà, à frotter. Question du shop, j'avais commandé une casquette brodée le 26 mars. J'ai pas d'informations sur la date de livraison. En général, combien de temps ça prend? T'aurais déjà dû la recevoir là normalement. T'as contacté le support? Un jeu de cartes, ouais. Merci Velko pour le Prime. Donc bref, tout ça pour dire que quand Utip a fermé ses portes, on avait récolté 200 000 euros depuis le début de l'année sur un objectif total de 300 000. Donc là, on a jusqu'à la fin de l'année pour récolter encore 100 000 euros de dons, d'abonnements, de ventes de t-shirts, de ventes de places, etc. Donc on a encore besoin de vous. On a encore besoin de vous pour réussir à faire Baxi jusqu'à la fin de l'année. Enfin, jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à la fin de la saison, donc fin du mois de juin. Voilà. Faites des gourdes, ça marche bien, ouais. Et si possible avant pour qu'on soit tranquille. Ouais. Attendez pas la fin du mois de juin parce que sinon on va être en mode putain, on va être obligé de retirer des émissions en disant désolé, on peut plus les financer là, on n'a plus les moyens. Est-ce que c'est pas possible de remettre un indicateur sur l'état du financement dans l'overlay? Bah non, en fait c'est ça le problème, c'est que KissKissBankBank, ils ont pas cette fonctionnalité. Du coup, on n'a plus d'overlay, on n'a plus d'alerte. C'est chiant. Je suis d'accord avec toi. Hein. Quand t'es streamer, c'est relou parce que moi j'étais content de pouvoir vous montrer où est-ce qu'on en était. Est-ce que t'as demandé au fond Marianne? Non. Au moins savoir jusqu'à quand on a backseat. Mais c'est une très bonne idée, c'est une très bonne question que moi-même je me pose. Hein. Je te jure que là en ce moment on s'arrache un peu les cheveux. Le CNC, ça en est où? Bah écoute, on attend la réponse. D'ailleurs, je vais relancer. Toutoum. J'espère pouvoir vous annoncer une bonne nouvelle demain, mais j'en sais rien. Le CNC, toujours pas de réponse, c'est normal. Oui, c'est normal, le jury était il n'y a pas longtemps. Sergent, t'as la possibilité de recevoir des membres du gouvernement mis en cause dans des scandales, etc. J'en sais rien. Je sais pas. Admettons que Macron te propose un ministère ou un secrétariat d'État, est-ce que tu pourrais accepter ou par principe tu dirais forcément non? En fait, c'est exactement ce que je vous disais dans la dernière FAQ sur ça veut dire quoi être ministre? Et ça sert à quoi d'être ministre? Être ministre pour avoir un titre, ça ne sert à rien. C'est pas intéressant, on s'en branle. On s'en fout. Moi, la politique, c'est une logique d'action publique. On est là pour travailler, pour avancer, pour faire changer les choses. Donc, il ne s'agit pas de proposer à quelqu'un d'être ministre comme ça. C'est ministre pour quoi faire? Pour porter quelle vision, quel projet, soutenu par quelle majorité? Donc, moi, comment il s'appelle? Emmanuel Macron, qui a une obsession personnelle pour le SNU, c'est pas ma soupe. C'est pas mon truc. Sur les questions de la jeunesse et de la démocratie, je suis désolé, on n'est pas aligné. Donc, si c'est pour avoir des arbitrages qui sont refusés, enfin, tu vois, c'est. Tout le monde pense pas comme ça, Jean. Eh bah, ben, vous faites ce que vous voulez. Hein. Si vous, on vous propose un ministère demain sans moyens politiques pour rien faire et que vous acceptez, c'est votre problème. C'est pas ma conception à moi de la politique, mais si vous, ça vous excite, allez-y. Hein. Ouvre le site de la collecte dans un browser, fais un OBS et capture la fenêtre en crop top pour n'afficher uniquement que la partie qui t'intéresse. La barre de progression. Il n'y a même pas de barre de progression. Non, non, mais ça marche pas comme ça, les gars. Je suis désolé. Non, non. Et puis surtout, le problème, c'est que la barre de progression avec Ixys Banque ne tient pas en compte les abonnements, les dons ponctuels, les ventes sur le shop, etc. C'était ça qui était intéressant avec la barre de progression de Utip, c'est que ça progressait, quel que soit le mode de soutien. Même quand on vendait des places. Là, on a enfin, on va avoir 3 ou 4 services différents, on va récolter de l'argent de 3 ou 4 trucs différents, donc on va pas réussir à merger les trucs dans une même API, on n'y arrivera pas. Bon, bref. T'es en train de dire à demi-mot qu'il y a des ministres qui servent à rien. Non, je dis pas qu'il y a des ministres qui servent à rien dans ce gouvernement, je dis juste que chacun est responsable de la raison pour laquelle il accepte de devenir ministre, c'est tout. Et il faut que ça te convienne et il faut que tu sois raccord avec la majorité. Avec la majorité des députés à l'Assemblée nationale. C'est pas si compliqué, juste faudrait payer quelqu'un pour une journée pour agréger. Oh putain. Voilà, ça c'est exactement. Donc bienvenue dans ma vie de producteur de backseat. Il y a des solutions pour améliorer le financement de Baxit, mais pour ça, il faut dépenser de l'argent. Faut dépenser de l'argent maintenant, en croisant les doigts pour que ce soit utile plus tard. J'adore! J'adore mettre en danger mon projet. Ouais! Genre Hulot, quand il était ministre, il a perdu énormément d'arbitrage, donc il s'est barré. Voilà, très bon exemple. Hulot, il a constaté qu'il n'avait pas de moyens politiques d'avancer, donc il s'est barré. Être ministre pour réaliser des convictions qui ne te conviennent pas et qu'on te reprochera après. Oui, voilà, c'est ça. Sinon, tu mets une barre au pif qui montre toujours qui manque des thunes. Oui, je pense qu'on va finir par faire un truc comme ça, avec un petit overlay discret qui vous rappelle qu'on a besoin de votre soutien, ouais. Ça s'appelle investir, exactement. Ça s'appelle investir. Est-ce qu'on peut faire une pétition pour demander au gouvernement de financer Baxit? Ouais, enfin ça dépend des modalités de financement du gouvernement. C'est-à-dire que si en échange du financement il faut soutenir le gouvernement, bah non, en fait, c'est pas l'idée. Hein, l'indépendance de la presse, tout ça. Ileu, il a fini par comprendre que les violences sexuelles et sexistes, ça allait finir par se voir. Je suis pas sûr que ce soit ça qui l'ait fait se barrer. Au contraire, il a reçu un gros soutien au moment où c'était sorti. Le CNC, ça a marché. On attend la réponse. Daxit ne sera jamais neutre financièrement. Bah non, parce que déjà, c'est vous qui financez, donc vous mettez la pression. Je sais pas si vous avez remarqué, mais vous mettez la pression sur l'équipe éditoriale. Alors, hein? Ça défend l'indépendance de la presse, l'autonomie financière, mais ça n'hésite pas à foutre la pression. Ha ha! Ha ha! Alors, Bolloré? Hein? Les petits investisseurs, les petits porteurs. Hein? Vous voyez, vous avez tous du Bolloré au fond de vous. Au fond de vous. Moi, je finance Baxit que si Baxit représente mon idéologie. Ok, Vincent. Eh ben alors. Dis pas ça, pitié. Cette phrase est tellement sale. Ah non, mais. On est carrément les actionnaires de Baxit. Ah, puis vous êtes chiant comme actionnaire. Hein. Mais je préfère vous avoir vous comme actionnaire que n'importe qui d'autre. Elles sont où nos dividendes? Ah, désolé, t'as investi dans le mauvais projet, hein. Où sont mes dividendes? Non, non. Alors, si vous voulez du pognon, conseil d'investissement. Si vous voulez du pognon, n'investissez pas dans les médias. On est tes actionnaires préférés. Ah oui. Il faut investir où? Dans la crypto. Investissez dans la crypto. Vous connaissez les NFT? Je vous conseille d'acheter des JPEG de petits singes qui font la tronche. Mais vous allez recevoir un mail qui vous garantit la vie de ma mère que vous êtes le seul à posséder le truc. Ça a valeur de l'or. C'est sûr. T'inquiète, je suis visionnaire. Et ceux qui sont pas d'accord avec moi, ils ont rien compris au monde de toute façon. C'est l'avenir. De toute façon, la techno qui est derrière, elle est méga béton. Donc c'est sûr. Tu dis n'importe quoi, ça vaut déjà de l'or, c'est le présent, pas le futur. Ah merde, je suis désolé si t'arrives pas à refourguer tes NFT. Je suis désolé. Désolé, hein. Non, en vrai, on rigole, mais c'est pas marrant parce qu'il y a plein de gens qui ont perdu plein de pognon, qui ont acheté des NFT pendant le Covid et qui, 2 ans plus tard, ils disent bon. Peut-être c'était pas une méga bonne idée. Genre toi? Ah non, non, ils avaient de l'argent à perdre. Oui, mais attendez, c'est toujours pareil, c'est facile de critiquer, machin. Ah, vous faites les malins, là. Ah, ça fait les malins, hein. Ah, ça se croit plus malin. Non, mais c'est facile de critiquer. Hein. Ah, c'est facile de critiquer. Mais il y a aussi des gens qui se sont fait avoir. Il y a aussi des gens qui ont mis beaucoup de leurs économies personnelles. Il y a des gens de bonne volonté qui se font arnaquer. C'est exactement comme les addictions aux jeux d'argent. Voilà. Il y a des gens qui perdent tout en jouant au poker, en jouant au loto. Bah, c'est pas rigolo parce que c'est souvent des gens pauvres qui sont surendettés et du coup, c'est pas marrant et il faut faire gaffe. Voilà. Bah moi, plutôt que d'acheter des NFT au Covid, j'ai investi dans des entreprises. Laisse-moi deviner, ces entreprises qui sont en train de crever parce qu'elles n'arrivent pas à rembourser leur PGE. Est-ce que tu investirais dans l'e-sport? Ça dépend de la structure. Non, ça dépend de pourquoi faire vraiment, hein. PGE, c'est les prêts garantis par l'État, qui ont été consentis à plein d'entreprises pour les empêcher de crever pendant le Covid. Sauf que là, on est 2 ans plus tard et il faut qu'elles commencent à rembourser. Il y en a plein qui sont en train de mettre la clé sous la porte à cause de ça. Bon courage, hein. Si vous êtes entrepreneur, si vous êtes en train d'enchaîner les coups de téléphone avec vos investisseurs, votre banquier pour essayer de trouver des solutions de refinancement et que vous ne les trouvez pas, bon courage à vous. L'été risque d'être difficile pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. À cause de l'énergie, oui, à cause de l'énergie, à cause de l'inflation, à cause de plein de trucs, hein. Tellement prévisible les PGE. Alors ça, t'as remarqué que les gens le disent toujours après, hein. C'est après la crise que tout le monde dit. C'était évident. C'était prévisible. C'était sûr que la Russie allait envahir l'Ukraine. C'était sûr. Je vous l'avais dit. Bon, il se trouve que je l'avais pas dit comme ça. Mais c'était sûr. Je veux pas me la péter, mais le 49-3, je l'avais vu venir. Oui. 49-3. La guerre devrait durer un mois à Skip. C'est vrai, ça? Ils sont où les gens qui nous disaient l'invasion de l'Ukraine en 2 semaines s'est pliée? Kiev va tomber dans moins de 15 jours? Ils sont où ces gens-là d'ailleurs? Ils sont devenus quoi? Pourquoi ils ont supprimé leur tweet à 2 h du matin? Bah alors? Ils sont à Moscou, oui, c'est ça. Tout le monde y croyait, mais beaucoup de gens y croyaient, mais c'est normal. Mais c'est toujours pareil. Les gars, on va se redonner des règles d'humilité collective. Je vous rappelle que quand le Covid a débuté, eh ben, on était très nombreux à pas trop savoir si ça allait durer, cette histoire-là, ou si ça allait être comme le H1N1, un truc qui en fait va pas exister. Bon, c'est juste un rhume. Et de bonne foi, hein, je suis pas en train de dire que les gens étaient bêtes ou quoi, mais voilà, de bonne foi, il y a des gens qui ont dit, oh, ça va, c'est une grippette. Ce que ça aurait pu être? Bon, il se trouve que ça n'a pas été ça. Bon, eh ben, eh. Des livres à conseiller pour commencer à lire. Il y a la collection J'aime lire. Il y a la collection Je lis déjà. Et si t'es vraiment débutant, débutant, tu peux prendre la collection Petit ours brun. Voilà, n'hésite pas. Il y a Tchoupi aussi, oui. Sarkozy, futur Premier ministre, c'est évident. Mais évidemment, mais regardez ce qui va se passer. Regardez ce qui va se passer. Si Sarkozy devient Premier ministre, moi je connais un connard qui s'appelle Jean Massier, qui va venir vous voir en stream et qui va vous dire, eh, je l'avais dit ou pas? Ah, je l'avais dit. Je l'avais dit. Gros cerveau. Oh! Bon, hey, venez, on arrête et on est tous d'accord pour dire qu'on ne peut pas prédire l'avenir, que tout est possible, que beaucoup de choses sont possibles en tout cas, qu'il y a des choses qui sont plus probables que d'autres, que c'est pas grave, et que parfois l'improbable se produit, et que bon, bah, ce jour-là, on est surpris comme tout le monde. C'était une phrase vachement bien que j'avais entendue dans le documentaire, un de mes documentaires préférés qui s'appelle The Gatekeepers. C'est un documentaire sur les services secrets israéliens qui raconte l'histoire du conflit israélo-palestinien. Et il y a un ancien du coup dirigeant des services secrets, donc du Shin Belt, hein, les services de renseignement du gouvernement israélien, où justement on lui pose la question de la prédiction des événements. Non, pas le Mossad, le Shin Bet. On lui pose la question de la prédiction. Et lui, il dit, mais en fait, on nous demande, à nous les services de renseignement, de prédire l'avenir. Sauf qu'en fait, on ne peut pas prédire l'avenir. Et il le dit très bien. Il dit une phrase que je trouve très vraie. Il dit, aucun service de renseignement au monde n'avait prévu la chute du mur de Berlin. Un truc pareil, c'est pas prévisible. Tu peux envoyer des notes en disant qu'il y a des tensions qui sont en train de monter en Allemagne de l'Est, machin, truc. Enfin, mais en fait, un événement comme la chute du mur de Berlin qui rebat complètement les cartes, tu peux pas prédire ça. Tu peux pas prédire le 11 septembre 2001. Tu peux faire remonter des notes en disant il y a des menaces de groupes terroristes qui menacent de s'en prendre aux intérêts américains. Alors, quelle forme ça prendra, quelle date, quelle implication politico-diplomatique? Merci Dragon Broom, merci beaucoup pour les 10 subs offerts au chat.
Je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas, mes affaires marchent en ce moment.
C'est comme le réchauffement climatique qui aurait pu prévoir. Non, alors c'est pas exactement le réchauffement climatique, c'est les conséquences précises. Du réchauffement climatique. C'est-à-dire que, d'ailleurs, c'est ce que disent très bien les climatologues eux-mêmes, de dire en fait, on n'a pas de boule de cristal. C'est-à-dire qu'on sait prédire les modèles d'augmentation des températures à moyen et à long terme. On sait les implications que ça a. Donc, on peut vous dire qu'il y aura davantage de sécheresse, qu'il y aura davantage de précipitations, etc. Mais alors, vous dire quel jour il va pleuvoir, quel département va être touché et comment les cultures vont être touchées précisément dans quel département, ça personne ne saura jamais vous le dire. Donc c'est mais il faut pas en tirer la conclusion que du coup rien n'est prévisible. Non. Faut être plus malin que ça. C'est pas noir ou blanc, c'est plus compliqué que ça. Jean Massier est team premier degré. Mais oui. T'as pas relevé la blague de quoi? Qui aurait pu prédire? Non mais si justement. Mais si, j'ai bien compris la blague. C'est une ref à Macron. Oui, je sais. Il y a quand même des grandes tendances. Oui, justement, il y a des grandes tendances. Mais vous ne pouvez pas prédire, sur la base des rapports du GIEC, que l'agriculteur qui est aujourd'hui dans le Gers cultive du colza et du machin. Et ben en fait, son colza, il va crever cet été entre le 31 août et le 4 septembre. Vous pouvez pas lui prédire ça, vous pouvez pas lui dire. La dernière vidéo du Collège de France explique la difficulté de la prédiction. Et c'est pas le but du rapport du GIEC non plus. Et c'est d'ailleurs pas le but du rapport du GIEC. D'ailleurs, le rapport du GIEC l'explique lui-même très très bien. Donc, sous réserve que c'est pas clair et précis, on fait rien. Ah, c'est pas du tout ce que je dis. Ah non, c'est absolument pas ce que je dis. J'étais en train de parler des implications politiques de l'imprévisibilité des événements. Donc, on est tous surpris par l'actualité qui se déroule sous nos yeux. Et c'est normal que les services de l'État, les services de renseignement, les services de tout ce que tu veux ne puissent pas être capables de prédire des choses comme la chute du mur de Berlin, l'invasion de l'Ukraine et l'incapacité à ce que cette invasion prenne la ville de Kiev en 2 semaines comme c'était prévu, des événements comme des attentats. Et ça change la donne du jour au lendemain, et ça crée des différences, et ça crée des divergences, et c'est pas facile. D'ailleurs, tiens, Usul, hier sur Twitter, justement, puisqu'on parle de ça, tiens, c'est intéressant.
Vous avez vu qu'Emmanuel Macron, après son allocution, il s'est retrouvé dans la rue et il a chanté, parce qu'il y a un groupe de passants qui passait par là, qui lui a proposé de venir chanter sur une application, un chant pyrénéen, machin. Et Macron, il a dit ouais, ok, et il est allé pousser la chansonnette avec eux. Il se trouve qu'il y a des journalistes qui ensuite ont révélé que l'application sur laquelle il a chanté, c'est une application que je connaissais même pas, on s'en fout complètement, c'est une application qui propose de collectionner des chants, notamment, enfin des chansons, etc., mais notamment des chants, des chansons populaires, des chansons, enfin ouais, des chansons du répertoire populaire. Et dans l'ensemble du répertoire populaire, il y a aussi des chants traditionnels d'ordre des heures sombres de notre histoire. On va le dire comme ça. Donc il y a du chant folklorique comme la grosse bite à Dudule. Il y a des chansons du répertoire populaire politique comme la chanson de Craon, le chant des partisans, des trucs comme ça. Et il y a aussi des chants du Troisième Reich, des chants de collaborationnistes, des chants de maréchalistes, etc. Bon. Donc du coup c'est un peu edgy quand même comme application. Mais c'est pas là où je voulais en venir. C'est pas là où je voulais en venir. Là où je voulais en venir, c'est que Macron s'est donc retrouvé à pousser la chansonnette avec une bande de passants machin. Et du coup, il y a plein de gens sur le créateur de l'application sur ton ancien du GUD. Ah, ça c'est possible, ça. C'est possible. Toujours est-il qu'il y a des gens sur Twitter, des opposants à Emmanuel Macron, qui ont commencé à dire ouais, c'était calculé. Genre Emmanuel Macron, il se balade pas comme ça tout seul dans la rue. Ah tiens, comme par hasard, il est alpégué par des passants qui lui proposent de pousser la chansonnette. Tout ça, c'est prévu. Et du coup, Jules, il a fait un tweet pour dire non, arrêtez. Arrêtez de croire que tout est calculé, prévu et tout. Macron, on lui a proposé de venir chanter. Il a dit oui, il est venu chanter et ciao, bye bye. Et donc ça, si tu voulais, c'est un truc qui est assez important, parce que du coup, moi, j'ai réagi aussi à son tweet, et je pense qu'il a parfaitement raison, Usul. On a un vrai problème dans le débat public, c'est qu'on a toujours tendance à considérer que les gens avec qui on n'est pas d'accord politiquement calculent tout, mesurent tout, et que rien n'est jamais dû au hasard. Que rien n'est jamais accidentel, que tout est toujours calculé, mesuré, c'est une tentative de, machin, etc. Et en fait, pas du tout. Mais pas du tout. Si vous saviez à quel point tout est improvisé en permanence. Genre ouais, c'est sûr que les équipes de com de l'Élysée, elles ont prévu une séquence qui serait filmée par des téléphones portables où Emmanuel Macron croiserait des gens qui chantent et du coup ça ferait des images. Et du coup, non, en fait pas du tout. C'est la vérité, la réalité est tellement, tellement, tellement plus simple que ça. Et tellement plus débile. À chaque fois... Ça frise le complotisme. Ah, oh, mais parfois, c'est les deux pieds dans le complotisme. Il y a des gens qui ont l'impression que tout est calculé matin, midi et soir en permanence. Tu fais non, mais en fait, non. Le niveau de sécurité du président, c'est si facile de l'approcher. Mais oui, sur ce genre de truc, bien sûr. Macron qui sort de sa bagnole et qui fait 10 mètres pour aller machin, bah, si t'es de passage par là, tu croises le président. C'est des choses qui peuvent arriver, bien sûr. Bien sûr. Communication et complotisme, c'est deux choses différentes. Et moi, du coup, ce que je racontais sur Twitter, c'est que, de par mon expérience, je peux en témoigner. quand tu fais partie des conseillers communication d'un politique, quel qu'il soit, tu essayes d'anticiper, mais en fait, tu n'y arrives jamais. Et ça fait un lien avec ce que je vous disais juste avant sur l'imprévisibilité de l'actualité, qui fait que parfois, tu essayes de réfléchir à des séquences de communication. Et en fait, ta séquence, elle vole en éclats parce qu'il y a une news qui tombe et qui, en fait, change toute la donne. C'est ce que je vous racontais à l'hôtel de ville de Paris dans les équipes d'Anne Hidalgo. Ils étaient en réunion. L'entourage d'Anne Hidalgo, ils étaient en réunion pour essayer de préparer des trucs, des... ils étaient en train d'essayer de préparer une séquence communication, réfléchir à lancer un projet, machin, comment on l'annonce, le communiqué de presse, la séquence, le truc, le machin. Et puis ils étaient à l'hôtel de ville de Paris en réunion, puis à un moment il y en a un qui regarde par la fenêtre et il voit de la fumée qui sort du toit de Notre-Dame de Paris. Et là il dit aux autres, Écoutez, je crois que notre séquence de communication, on va l'oublier là. Ben voilà, vous avez le parfait exemple physique de... Ah ouais, non. Là, on va laisser tomber les annonces qu'on avait l'intention de faire sur les pistes cyclables, ça va pas être le sujet là. Ben voilà. C'est... Nous, c'était pareil, j'étais au cabinet de la ministre de la Santé, on était en train de prévoir des annonces dans le cadre du projet de loi, machin, truc, réforme de la santé, bidule, truc, machin, déplacement de la ministre, faudrait qu'on aille dans les départements pour commencer à faire des trucs sur l'hôpital, le lien avec la ville et tout, machin, l'accès à la santé, machin. Et là, on regarde sur BFM et ben on voit qu'en fait, il y a un attentat en cours. Là, ce jour-là, on est le 7 janvier 2015. Et là, on comprend que... Ouais, bah notre petite séquence de communication sur le thème de la santé des territoires, on va l'oublier. Hein. Et ça, ce genre d'anecdote, c'est tous les jours en fait. Ça n'arrête jamais. Ça n'arrête jamais. Donc en fait, t'essayes de prévoir, mais en fait, t'as maximum 24 ou 48 heures de visibilité. T'essayes d'anticiper un peu l'agenda de la semaine. Et tu dis, bon, bah on fera au mieux. Et puis en fait, tu fais jamais au mieux. Tu fais du damage control. En vrai, c'est super stimulant. Oui, ah, c'est super stimulant. Ah oui, bien sûr. Rien ne se passe jamais comme prévu. Ta séquence de com, elle se passe pas comme prévu. Ta campagne présidentielle, elle se passe pas comme prévu. Rien se passe comme prévu. Tout est bordélique en permanence. Par exemple, quand ils annulent tous leurs déplacements. Bah exactement, nous, c'est ce qu'on avait fait. Hein. On a dit, bon, bah, on va annuler tous les déplacements pour les 15 jours qui viennent. Donc vous rappelez tous les gens que vous aviez prévu de recevoir en réunion, vous leur dites, en fait, non. Et en fait, c'est la vie. Mais oui, c'est la vie. Et tout, c'est pareil sur Baxit, hein, quand les ministres ils nous disent ouais, ok, on vient sur Baxit, on sait que le ministre peut annuler sa venue la veille. Hein, parce que l'actualité, boum, il se passe un truc. Voilà, il faut tout changer. Voire une heure avant. Voire une heure avant, ouais. On dirait mon projet de recherche, rien ne va, on avance et on espère que ça passe. Exactement. Donc bref, tout ça pour dire, ne rushez pas trop vite la conclusion que tout est préparé. Commencez d'abord par imaginer l'hypothèse que c'était pas prévu et que du coup c'est la merde. Donc c'est exactement ce que disait Usul, c'est que Macron, il y a des mecs qui lui disent, ah, monsieur le président, venez chanter avec nous. Macron, il dit. Ah ouais, c'est rigolo, il y va, et là il y a son conseiller com derrière qui fait merde, qu'est-ce qu'il fait ce con, putain, pourquoi il y va? Fais pas ça, trop tard. Et là c'est en train de se passer devant toi. Pareil, là son déplacement en Alsace là. Il avait prévu une déambulation machin pour aller rencontrer les Français, il se retrouve avec un concert de casseroles avec les gens qui disent Macron démission et tout, t'as toutes les caméras qui sont là en train de filmer de BFM TV. Croyez pas que le conseiller communication il est content, hein. Le conseiller communication il est derrière, il est en mode oh merde, merde. Non, ah oh, putain, les images et tout, on entend les gens qui chantent Macron démission. Ah oh, non, ah oh, ça va tourner partout sur Twitter toute la journée. Bienvenue en politique, bro. T'aurais voulu que ça se passe autrement, bah ça s'est pas passé comme ça. Bah ouais. T'aurais voulu. T'as même prévu le coup, hein. Pareil pour la baffe, mais pareil pour la baffe, pareil. Macron qui s'approche des barrières pour aller serrer la main à des vieilles dames qui sont là pour dire Monsieur le Président, Monsieur le Président, il est censé rejoindre sa voiture dans 5 minutes, tout est prévu, tout est calculé. Il y a un mec qui lui met une tarte. Et bah ça devient l'actu du jour. Tout le monde s'en fout de savoir ce qu'il vient de visiter, qu'est-ce qu'il a déclaré dans son discours devant l'usine machin, quand il a rencontré les élus locaux, truc, tout le monde s'en branle. Macron s'est pris une baffe. C'est ça l'actu du jour. Donc là, toute ta séquence de communication, déplacement en Ardèche, tu oublies. Terminé. Voilà. Et puis comme me l'avait dit un collègue spécialiste en communication de politique qui me disait ne jamais oublier que ton pire adversaire, c'est le mec pour qui tu bosses, hein. C'est le facteur humain éternel, c'est-à-dire que tu lui prévois une séquence de communication parfaite. Tu lui dis bien, attention, hein. Là, le but, c'est d'essayer de montrer un caractère apaisé, ouvert d'esprit. Il faut qu'on travaille ton image autour de la volonté de dialogue et tout. Donc, tu montres une volonté de travail, de dialogue, tu montres que la porte est ouverte et tout. Ton politique, il dit « Ouais, ok, j'ai bien compris. » Il arrive sur le plateau de la matinale de radio. Il se fait rentrer dedans par une question un peu sec du journaliste. Et là, il décide de partir dans les tours parce qu'il est mal réveillé. Il commence à s'énerver et tout. Et toi, t'es là, tu fais « Oh, merde, putain. » On avait dit ouvert d'esprit, on avait dit chaleureux, on avait dit proximité. Genre Jean-Luc, bah mais Jean-Luc, ça doit être un cauchemar de bosser pour lui. Jean-Luc, faut qu'on travaille sur ton image avec les journalistes. C'est important. On a des très mauvais sondages d'opinion, la perception des Français, tu leur fais peur, t'es colérique, etc. Donc il faut que tu te montres souriant, avenant, que tu travailles ton image de vieux professeur qui a de l'expérience, etc. Jean-Luc qui fait ouais, vous avez raison, vous avez raison. Il arrive dans le studio de radio, on lui pose une question sur Quatennens. Comment? Scandale! Oh non, Jean-Luc, arrête! Non, Jean-Luc! Donc voilà. Non, mais je vous jure, hein, bosser pour un politique, c'est. C'est prévoir un parcours d'obstacles pour un cheval qui va refuser tous les obstacles les uns après les autres, et du coup tu vas devoir tout improviser parce que t'avais bien balisé le truc dans ta tête, mais en fait c'est pas du tout comme ça que ça va se passer. Donc voilà. Donc non, ne croyez pas que tout est mesuré, tout est calculé. Les politiques, il leur arrive des merdes tous les jours. Ils croisent les doigts pour que ça leur arrive pas. Et en fait, les équipes de com, c'est des gens qui sont sous l'exomile, qui dorment 3 heures par nuit, qui improvisent en permanence et qui font du damage control. 100% du temps, ils anticipent pas les mecs, hein. Ils essaient de réparer les conneries de la veille. C'est vraiment, c'est les conseillers, notamment les relations presse, les conseillers relations presse, machin, pour les ministres, pour l'Élysée, pour machin. Croyez pas qu'ils anticipent la séquence de communication de la semaine prochaine. Non, non, ils passent leur journée au téléphone avec des journalistes pour leur dire, non, mais il a pas voulu dire ça en fait. Ce qu'il fallait comprendre dans ce qu'il a expliqué, c'est plutôt que. Et là, le journaliste qui dit. Ah non, mais pourtant il m'a bien dit ça. Oui, il a dit ça, mais en fait c'est pas ce qu'il voulait dire. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, j'essaie de t'expliquer. Donc, en fait, tu fais du damage control. Tu rames pour essayer de limiter la casse au possible parce que là, putain. Non, il a pas dit connard. Mais en fait, le connard n'était pas destiné au journaliste. Le connard était destiné à lui-même. En fait, il s'en veut lui-même de ne pas réussir à faire la pédagogie de son programme. Ouais. Ah, il m'a bien traité de connard. Oui, mais c'est pas comme ça, c'est pas ce qu'il a voulu dire. Voilà. Bosser pour un politique, c'est ça. La turbo-brasse. Ah non, mais c'est. Tu te prends pour Jacques Séguéla, et puis en fait, t'es un pompier qui éteint des incendies toute la journée. Donc voilà. Et les séquences de communication, t'essayes, mais en fait, t'y arrives pas. Il a manqué de pédagogie. Oui, voilà, on va dire qu'il a manqué de pédagogie. Oui. Là, je me souviens de. C'est un souvenir, mais quand Nicolas Sarkozy était président de la République, un journaliste lui avait posé la question. C'était au début, c'était en 2018, je crois, un truc comme ça. Un journaliste lui avait posé la question est-ce que vous voulez en finir avec les 35 heures? Et Sarkozy avait répondu, je vais vous dire le fond de ma pensée, oui. Dès la fin de la journée, il y avait le ministre du Travail, qui à l'époque était Xavier Bertrand, qui avait fait la tournée des plateaux télé pour dire non. En fait, c'est pas ce qu'il a voulu dire. Il a voulu dire qu'il voulait en finir avec la philosophie des 35 heures, mais non, le gouvernement va pas toucher à la durée légale du travail. Et alors putain, il avait dû avoir des sueurs froides en mode oh putain, qu'est-ce qu'il a dit? Non, 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 on va pas toucher à la durée légale du travail, évidemment. Tous les syndicalistes du pays qui étaient en train de mettre leurs chaussures pour aller manifester dès le lendemain matin. Enfin, c'était en pleine négociation conventionnelle avec les syndicats, etc. T'imagines, t'es à ça d'avoir un accord interprofessionnel, et là t'as le président de la République qui lâche ça. Oh putain. Là t'as tous les syndicats qui se raidissent d'un coup en disant, comment ça? Le projet du gouvernement, c'est d'en finir avec les 35 heures? Non, 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 non. Sortez les merguez, on va dans la rue. Mais c'est ça, ils commençaient à faire chauffer les merguez, hein, c'était prêt. Et hop, la patate chaude. Et donc, du coup, là, t'as un ministre qui fait du damage control pendant des jours en disant non, il n'y a pas de projet. Et donc, effectivement, Xavier Bertrand avait fait la tournée des plateaux pour dire le gouvernement n'a pas l'intention de revenir sur la durée légale hebdomadaire du travail. En revanche, nous préparons effectivement des assouplissements sur la fiscalisation des heures supplémentaires de manière à inciter le travail. Oh putain. Donc là, autant dire que c'est le président de la République en personne qui a dynamité la séquence de communication de son ministre du Travail qui n'avait pas prévu de dire ça comme ça. C'est aussi l'occasion de tester dans l'opinion, voir si ça passe. Alors c'est un très mauvais ballon d'essai. Là, c'est ce qu'on appelle un ballon d'essai, effectivement, en communication. Un ballon d'essai, ça consiste à laisser entendre une hypothèse pour voir comment ça prend dans l'opinion. Donc, je sais pas, une interview, un député que personne connaît, un sous-secrétaire d'État, l'entourage d'un ministre qui dit ça, comme ça, ça paraît dans la presse. Et on regarde un peu comment les gens réagissent pour voir un peu, on appelle ça un ballon d'essai. Là, non, là, ce que je vous disais comme exemple, c'est pas un ballon d'essai, hein, c'est juste une énorme connerie qu'a dite le président de la République, qui a foutu un bordel monstrueux dans le travail de son propre gouvernement. Les rumeurs lancées volontairement, ouais. Après, alors, pareil, attention, attention avec les ballons d'essai. Parce que c'est souvent facile de dire « ouais, c'est un ballon d'essai ». En général, on dit après coup que c'est un ballon d'essai. Parce que si c'est un député... Alors ça, pareil, ça aussi, ça, je peux vous en parler d'expérience. Hein. Il y a des députés qui lâchent des dingueries. Des députés de la majorité qui lâchent des dingueries dans la presse. Tu peux être tenté de croire que c'est un ballon d'essai piloté par le gouvernement, sauf qu'en fait, c'est pas du tout un ballon d'essai piloté par le gouvernement. C'est effectivement le député qui veut faire pression sur le gouvernement, qui veut tordre le bras au gouvernement, qui du coup lâche une dinguerie dans la presse pour forcer le gouvernement à réagir sur le ballon sur la sortie du truc. Et du coup, lui, ça lui donne des marges de négociation pour faire passer son amendement sur le sujet. Alors ça, c'est des coups de billard à trois bandes, c'est tous les jours. Hein. Regardez le film L'exercice de l'État pour voir ça. Meilleur exemple. Comment casser les burnes à un gouvernement pour réussir à faire passer ton amendement? Si tu sens qu'en négociation ça va pas passer, que le cabinet veut pas en entendre parler, etc., tu passes par les journalistes. Meilleur moyen de faire pression. Meilleur moyen de faire pression. Mais ils se font turbo remonter les bretelles ensuite. Ah, il y a des hurlements, ça je le confirme. Là, il y a des hurlements, ouais. Ouais. Ah, ça, le conseiller du ministre, il appelle le député direct et il lui hurle dessus. Mais tu te prends pour qui, connard? Tu crois que tu vas nous tordre le bras comme ça? Enfoiré! T'es vraiment une pute! Mais pourquoi tu t'énerves, Michel? Parce que tu vas être obligé de donner un avis favorable à ma proposition maintenant? Eh ben alors, Michel, faut pas s'énerver. Ah ouais, ça s'insulte et ça gueule comme ça, bien sûr. Bah évidemment. Et là, ils sortent les dossiers. Ah bah quand tu rentres en guerre avec le gouvernement sur un texte de loi, faut pas t'attendre à ce qu'il te fasse des fleurs. Donc ouais, non, tu vas en prendre plein la gueule. Le bien-être au travail. En politique, le bien-être, il est apporté par le Lexomil, pas par le travail. Il y a un truc bizarre qui m'arrive à chaque fois que je vois ton stream un mercredi en mode OMG, il y a backseat, sauf qu'on est mercredi, du coup j'ai le seum. Ah merde. Mmh. En politique, les gens font pas ce métier pour le cadre, sinon ça se saurait. Ah oui, non, ça, je vous déconseille de faire de la politique pour pour le cadre de travail. On les voit vieillir en accéléré de toute façon les politiques. Puis quand ils arrêtent, ils calanchent. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Si tu veux faire de la politique pour faire avancer les choses, garde l'objectif, mais ne fais pas le politique. Bah non, du coup, tu fais pas avancer les choses. Relève-toi les manches et va te battre. Et ça va te coûter cher, mais tu pourras avoir la satisfaction d'avoir fait avancer les choses. Merci The Holy Rose, merci Pirate, merci Léa Corley pour vos resubs, merci beaucoup pour votre soutien, merci. Je viens de voir Boris et Philippe, un avis sur cette chaîne Twitch portée par les deux députés PS. J'ai pas d'avis, j'ai regardé la dernière fois, je trouve que Boris s'en sort bien, c'est cool. Oui, c'est ces deux députés socialistes qui font une chaîne Twitch ensemble. Ils écoutent très bien, c'est pas les seuls, hein, mais c'est bien. Ça manque un poil de naturel. Ah, mais ça, c'est normal, c'est des politiques. Les politiques savent pas être naturels. Ils sont en représentation tout le temps, c'est chiant. T'as passé une tête chez Avenir Écosocialiste aussi. Oui, alors oui, non, mais ça, je connaissais pas cette chaîne, mais j'ai vu qu'il y avait Chloé Ridel. Moi, dès qu'il y a Chloé Ridel quelque part, je clique, hein. Du coup, je suis tombé sur une chaîne Twitch que je connaissais pas, d'un groupe qui s'appelle Avenir Écosocialiste. Je connaissais pas. Voilà. Je suis pas resté longtemps. C'est Chloé Ridel qui parlait là, qui était là, ouais, le socialisme et tout. Je dis, ouais, c'est bon, ça va, on connaît. Ah, mais Chloé, c'est la meilleure, c'est pas le sujet. C'est juste qu'elle est porte-parole de parti, c'est tout. Avec ta prise de parole sur C'est à vous à propos de l'extrême droite, je me demandais ce que tu pensais de la participation d'Hugo Clément au débat organisé par Valeurs Actuelles. Bah, qu'est-ce que j'en pense? Moi, j'y aurais pas participé. Voilà, je fais pas ça. Merci, jeune Padawan, pour ton resub. Non, je vais pas. Non, je vais pas aller discuter avec l'extrême droite dans leur cadre à eux. Ça marche pas comme ça. De toute façon, je suis pas invité, donc bon. Je sais pas ce qu'il fait, Sifax, là, il y a un bug. À l'inverse, tu ferais venir dans tes événements? Non. Mais non. Pourquoi ce rejet permanent de l'extrême droite? C'est une bonne question, ça. Par intolérance, sans doute? On va dire ça. T'as pas honte? C'est terrible. C'est terrible. Par antiracisme. Par antiracisme borné. On a dit le pluralisme, oui. Oui. Antiracisme primaire, oui, voilà, c'est ça. Anti-lepénisme post-traumatique. J'aime bien. Les républicains et En Marche sont racistes aussi. Ouais. Et les centristes et les socialistes et les écologistes et Mélenchon aussi. Et ouais. Bon, bah, une fois qu'on a cancel tout le monde, ça devient compliqué. Est-ce que tu penses qu'il y aura des obsèques nationales de Jean-Marie? Bien sûr que non. Qu'est-ce que tu racontes? Tu devrais inviter uniquement Poutou, clairement. Et encore, j'aurais des threads qui m'engueuleraient parce que c'est un scandale d'inviter Poutou, c'est un mec de droite. Oui, je... Poutou, ce bourgeois lyonnais. Mais il est pas lyonnais, Poutou, il est bordelais. Non? Si? Si, si, bordelais. Oui, c'est bien ça, oui. Vive le SMIC à 3000 euros, si tu veux. Si tu veux. Par contre, est-ce que tu peux faire un don, s'il te plaît, à Baxit pour me permettre de payer ce niveau-là de salaire les gens qui bossent sur Baxit? Merci par avance pour ton soutien. Let's go. Putain, j'ai envie de déglinguer un gros kebab. Arrête, tu me donnes faim. Est-ce qu'on gagne des années de cotisation pour la retraite en donnant un backseat? Oui. Un bon resto à conseiller, Porte de Versailles, je suis en déplacement. Porte de Versailles? Non, je connais pas du tout ce quartier en vrai. En vrai, je t'aime beaucoup, Jean, mais t'en as pas marre de quémander pour ta chaîne Twitch ou Backseat. Pourquoi je te fais pitié? Bah écoute, si c'est le prix à payer pour vous faire des belles émissions. Et si vous... si vous donnez pas par soutien, faites-le par pitié. Fais un don à Jean, il arrêtera de quémander. Ouais. Quémande, on veut plus de backseat. À votre bon cœur. Charité chrétienne, ouais, faites-le par charité chrétienne. Chaque don repousse la prochaine demande de don de 30 secondes. Ça, c'est une très très bonne technique. À chaque fois que vous faites un don, j'arrête de vous demander des dons pendant 30 secondes. Ah, bah qu'est-ce que vous voulez? Franchement, Jean Massier, tes streams sont super. Est-ce que t'as pensé à faire une émission qui mélange invités politiques, actu et médias avec des chroniqueurs?
Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Faudrait, ouais. Faudrait que... Ce serait bien, mais le problème, c'est que pour faire ça, faudrait que je trouve de l'argent et que comme ça me saoule d'en demander, je pense que je vais pas le faire. Ouais, je pense que je vais rester au fond de mon fauteuil comme ça, à critiquer. Je vais faire du react. Ah ouais, je vais faire ça, je vais faire du react. Je vais faire du react sur les projets des autres pour leur dire que c'est de la merde ce qu'ils font, bien assis dans mon fauteuil. Et voilà. Ça va être ça mon projet. Ma présence sur Internet va se limiter à ça. Je vais prendre des émissions produites par la télé, je vais réac dessus. Voilà. Ça c'est l'internet qu'on aime. On appellerait ça fond de site. Ouais, voilà, fond de site. Bien calé. Moi, je retiens que tu m'as pas remercié pour mon sub. Bah alors, Vraël! Eh, arrête de réclamer toi aussi. Arrêtez de réclamer des remerciements. Vous en avez pas marre. Tu peux pas te faire sponsor par le service public? Mais non, ils arrivent déjà pas à financer leur propre prod. Ils vont pas financer ceux des chaînes Twitch qui leur font de l'ombre. T'as combien d'abonnés? C'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Ça vient d'où le nom Backseat pour ton émission? C'est vous qui avez trouvé le nom, hein. C'est le chat. Hein. Ah, vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Hein. En plus, c'est vrai. Hein. Merci Astur pour ton sub. Merci Enexam pour ton resub. T'as quelle qualité d'abonné? Top 10 sur 10. 5 étoiles. Les meilleurs. Merci Volpil. Ah bah non, du coup, maintenant que Volpil s'est abonné, on est légèrement descendu, mais c'est pas grave. Non, je déconne, je rigole! Ah, t'es le meilleur! Arrête. À quand un article sur Jean Massier dans Télérama? Bon, il y en a déjà eu un. Regarde. Tape Jean Massier dans Télérama, tu verras. Bon, c'est pas le meilleur article, mais bon, c'est Télérama, quoi. Pourquoi inviter Barbara Pompili? Il y a un truc dans l'actu en lien avec elle. Bah oui, c'est prise de position contre la réforme des retraites alors qu'elle est membre de la majorité. Plus sa qualité d'ancienne ministre de la transition écologique qui fait qu'on a des questions à lui poser sur la transition écologique, la relance du programme nucléaire, la question des néonicotinoïdes, la taxe carbone aux frontières qui a été votée il y a 2 jours. Là, il y a une plénière du Parlement européen en ce moment, la taxe carbone aux frontières a été votée. Les méga-bassines, les ZFE, non, non, il y a plein de sujets à aborder, je suis très content qu'elles viennent. Merci Belios4 pour ton sub, merci beaucoup, merci. Merci Abès pour ton resub. Et elle sait qu'elle vient dans ce genre de guet-apens. C'est un guet-apens, Backseat? Bah écoute, elle est déjà venue l'année dernière, donc elle doit avoir un syndrome de Stockholm assez carabiné. Ah bah voilà autre chose.
C'est dingue qu'une émission qui n'hésite pas à être critique soit tout de suite qualifiée de guet-apens. Ouais, après, c'est bon. Il y a aussi un. Comment dire? Un périmètre médiatique dans lequel on commence à avoir l'habitude de voir des politiques être interviewés en mettant les pieds sous la table et en étant accueillis avec déférence sur les plateaux, quoi. Et je parle pas que de la télé, hein, je parle aussi des émissions militantes sur Internet. Enfin, tu vois, les gens qui ont l'habitude de regarder Blast et le Média, par exemple, bon bah c'est sûr que quand il y a un invité de gauche qui vient sur le plateau de Backseat, ils sont surpris parce qu'on leur rentre dedans, quoi. C'est pas tout à fait la même posture d'interview. Et pareil pour n'importe quel Jean-Michel militant Renaissance qui a l'habitude de voir les ministres être reçus. Et pouvoir dérouler leurs éléments de langage quand le ministre il arrive sur le plateau de Backseat, il se fait rentrer dedans. Donc du coup les gens ils disent ouais, mais c'est quoi ce guet-apens? Bah c'est pas un guet-apens, en fait c'est une interview politique. Hein. L'Escure l'a plutôt bien pris. Mais oui, parce que Lescure, il savait très bien dans quoi il venait. Hein. Roland Lescure, il m'a clairement dit, enfin, il m'a clairement dit, moi, je viens pas sur Backseat pour recevoir des fleurs. Hein. Enfin, il m'a dit, moi, je fais de la politique. Hein. Je suis pas là pour. Moi, je suis là pour aborder les sujets qui fassent, pour qu'on en parle, pour qu'on, parce que j'ai des choses à dire, parce que j'ai des réponses à apporter. Enfin. J'adore parce que là, dans le chat, du coup, il y a deux messages l'un au-dessus de l'autre. Le premier message, c'est « Il était ouvert, Laurent Lescure », et le deuxième, c'est « Je le trouvais imbuvable, Lescure, c'était dur à regarder. » Bienvenue. Bienvenue dans ma vie. 100% des émissions Backseat, c'est ça. Mais 100%. À chaque fois, je reçois un nombre incalculable de tweets, de commentaires YouTube, de tout ce que vous voulez. À chaque fois, il y en a un qui disait super interview, bravo, c'était vraiment bien. Le commentaire d'en dessous, c'est interview à chier, c'était un scandale absolu, je me désabonne. À chaque fois. J'adore. J'adore. C'est ça la France que j'aime. Mais c'est ça la France qu'on aime. C'est ça qu'on veut. Ah là là, non mais c'est génial. Alors pareil, pour chacun des chroniqueurs à chaque fois, t'as autant de Léa, j'adore, c'est trop ma reine. Et des gens qui disent, mais Léa, elle est imbuvable, faut qu'elle arrête. Pareil. À chaque émission. Usul, pareil. Ouais, Usul. Alors évidemment, Usul, il a sa fanbase. Bon, c'est pas les meilleurs, hein, mais c'est voilà, ils sont un peu débiles, donc ils sont là. MDR, Usul, c'est le meilleur. Et puis t'en as un côté qui mettent Usul, mais quel scandale! Vous avez pas honte? Pareil, toujours pareil. Et personne critique le présentateur? Ah bah si, 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 si. Ah bah attends, tu penses bien. Mais c'est normal, c'est le jeu. j'assume en mon nom et avec mon visage mon émission. Donc évidemment, j'en prends plein la tronche en permanence. J'en prends pas que plein la tronche, en plus c'est pas vrai. Il y a aussi plein de gens qui disent trop bien, bravo, c'était cool, c'était équilibré, trop bien, c'était marrant, trop bien, c'était... Mais c'est... non, non, mais... Il y a... Qu'est-ce que je voulais... Attends, c'est... Jean Massier se passe plat, le pire. Voilà, exactement. Non, attends, je voulais dire quoi? Parce que je pensais à un truc sur Twitter. Ah oui, alors évidemment, à chaque émission Backseat, il y a évidemment des gens qui tweetent. Il y a souvent des gens qui tweetent en disant « Je viens de découvrir Backseat, super émission, ça fait plaisir, c'est intéressant, machin. » Donc ça me fait toujours plaisir. Et puis, il y a aussi des gens qui tweetent « Au secours Backseat, imbuvable, j'en peux plus, c'est cringe, je me casse, je regarderai plus jamais. » Et moi, par curiosité, en général, je clique sur les pseudos des gens qui tweetent ça. Je regarde leurs tweets. Mais vraiment, 100% du temps, je me dis oh, « Putain, tu vas pas me manquer, toi. » Genre, vraiment, c'est pas grave. Vraiment, si t'arrêtes de regarder Backseat, c'est vraiment pas grave. So long. Ciao. Bon. C'est quoi les profils types? Bah en général, c'est turbo militant. Turbo militant, ultra vénère, Et du coup, c'est pas grave. Enfin, tu vois, c'est comme je vous le disais la dernière fois. Hein, vraiment, c'est pas une émission qui est faite pour plaire aux militants. Donc, si ça te plaît pas et que t'es militant, bah, c'est pas grave. Merci, Why Not, pour ton sub. Les nouveaux et les nouvelles chroniqueurs et chroniqueuses sont incroyables. Claire, Antoine, etc. Tu te souviens de ce que vous... Non, mais ça me fait plaisir de lire ça. Mais tu te souviens de ce que vous disiez en janvier dernier quand je vous annonçais qu'il y aurait des nouveaux chroniqueurs? Tu te souviens des commentaires dans le chat? Ah. J'en avais pris plein la gueule. Militant d'extrême gauche et j'aime bien. Il n'y a pas, que des militants d'extrême gauche. Hein, non, non, c'est militant tout court, hein, militant toutes causes confondues. Conservateur le chat. Mais vous savez que je vous aime d'amour quand même. Je vous aime du fond de mon cœur. Antoine, il est très cool, mais un peu verbeux dans ses questions. Oui, il nous a encore fait un tunnel la semaine dernière. Et je l'aime, Antoine. Mais oui, mais Antoine, il... Voilà. Fondation Jean Jaurès. Ah, il m'a tué avec son tunnel. Là, je le regardais, tu sais, il me regardait pas, hein. Je le regardais, je fais Antoine, 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 sors du tunnel là. T'as perdu tout le monde. C'est pas le seul. Non, en plus, c'est pas le seul. C'est pas le seul. Claire aussi, elle nous fait des tunnels quand elle s'y met. Léa, elle nous fait des tunnels. Usul, il fait des tunnels aussi où il sait pas où il veut en venir. Est-ce que Chloé Ridel, elle reviendra? Bah, en tant que porte-parole du Parti Socialiste, peut-être, mais bon, en général, on n'interviewe pas les porte-paroles, nous. Claire, elle est toujours bien. Pas toujours, toujours. Arrêtez de l'encourager. Il y a des fois, elle est un peu trop longue, elle pose 20 fois la même question en la reformulant 20 fois de suite. Je l'en veux pas, je l'adore. Mais elle a le défaut... que j'aime aussi chez Claire, c'est comme elle est pointue sur le fond, elle pose des questions de conférence. Et les questions de conférence, c'est ne pourrait-on pas dire que... Enfin, ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'on pourrait pas imaginer... Enfin, comment est-ce que vous voyez la manière que... Et donc, en fait, elle vient de reformuler 3 fois la même question, mais en la tournant différemment. Voilà, mais je lui en veux pas. Claire pose une question simple, argumentée, boum. je suis pareil. Non mais hey, vous savez que c'est vachement dur, hein. Là je rigole et tout, c'est facile, mais c'est vachement dur, hein. Être chroniqueur de plateau, c'est pas facile de prendre la parole, de rentrer dans le rythme d'une émission que tu maîtrises pas, etc. C'est vachement dur. Moi, j'ai parfaitement conscience que je demande à mes chroniqueurs un exercice qui est pas facile. Tous les chercheurs font ça pour sa défense. Mais oui, elle est chercheuse. Elle fait de la recherche. Évidemment, elle fait de la recherche. Mais très bien. C'est qui le Bifort demain? Demain, on a un Bifort sponsorisé par les coopératives. On va parler des coopératives. Valorant, t'entraînes-toi. Mais non, mais oui, mais il faut que je m'entraîne, mais là, j'ai pas le temps. T'en penses quoi de Cazeneuve sur Twitch? Comment ça, Cazeneuve est sur Twitch? Les coopératives, lesquelles? Le modèle coopératif, justement. Ça enchaîne les sponsors en ce moment, c'est cool pour toi. Bah c'est cool pour Backseat, hein, c'est pas pour moi, c'est pour Backseat. Cazeneuve Gaming. Oui, Cazeneuve sur Twitch. Bah, écoute, très bien pour lui, je m'en fous. Non, non, mais c'est très bien. Quoi. Oui, mais Backseat, c'est un peu toi. C'est surtout vous. C'est moi ou vous avez plus de Bifor sponsorisé maintenant? Oui, on en a plus. Bah, ça a mis du temps à se mettre en place. On en a davantage, mais il va falloir encore qu'on en fasse un paquet. Hein. Si on veut réussir à boucler la saison, là, on est en avril. On est déjà à 2 mois et demi de la fin de la saison. on a du boulot. Ça donne quoi côté KissKissBankBank? Bah justement, là, c'est pour ça que j'étais en retard pour mon stream aujourd'hui, parce qu'on a enchaîné les réunions, les rendez-vous et tout. On est en train de voir avec eux comment est-ce qu'on peut créer des trucs et des machins. Hop. Donc un peu compliqué. Mais on est dessus. On est en train de voir pour ouvrir un shop. On est en train de voir pour beaucoup de choses. Clairement, ça prend du temps. Hein. Clairement, ça prend du temps, mais on va y arriver. Enfin, on espère. Hein. Tiens d'ailleurs, alors donc du coup demain on fait un bifort avec les coopératives, voilà, donc ça c'est cool, c'est sponsorisé, c'est l'occasion de vous présenter le modèle coopératif et tout, on va en parler. Je vous présente aussi, on va faire une séquence particulière parce que le week-end prochain, je vous rappelle que c'est le Battle 4 qui est un événement caritatif sur le sujet du handicap. Et comme on est le backseat juste avant le Battle 4, on a voulu organiser une petite séquence dans l'émission pour discuter. De Battle 4 pour parler un petit peu surtout de l'aspect politique de la chose, donc la politique de handicap et tout. Et donc, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'on va faire une petite séquence juste après le Before avec plusieurs invités. On va discuter, donc il y aura Vincent Manilev qui va m'accompagner sur cette séquence-là. On sera avec Martin Laffey, avec Epsilon, avec Sandoz, avec Tony et Link. Oui, Tony et Link, pardon. Pour discuter du coup du Battle 4, de la levée de fonds, de c'est quoi l'objectif, qu'est-ce que vous allez faire et tout machin. Donc essayer de faire monter un peu la sauce autour du Battle 4, qui est un très bel événement. Battle 4, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un événement caritatif sur Twitch qui lève de l'argent sur la question du handicap. Voilà. Ça a lieu chaque année et là, ça arrive dès le week-end prochain. Et donc Tony, c'est un des co-créateurs du Battle 4 et Martin, c'est le responsable gaming de Handicap International, qui est l'association bénéficiaire. et Sandoz et Epsilon, donc son streamer et streameuse. Et on va recevoir également la ministre du Handicap, Geneviève Darrieussecq, qui va venir, du coup, enfin, je vais lui poser des questions sur, sur ce que fait le gouvernement en matière de politique de handicap. Voilà. On se dit, tant qu'à faire sur une émission politique, eh ben, c'est cool de recevoir aussi les politiques qui s'occupent de dossiers pour les mettre face à leurs responsabilités et leur dire, bon, et vous faites quoi pour le handicap, du coup ? C'est sympa de lever de l'argent, tout ça, mais... Donc voilà. Oui, parce que les assos c'est cool, mais l'État c'est mieux. Ça dépend pour quoi faire. Attention, hein. Mollo. Donc voilà. Donc ça c'est au programme de demain. Et ensuite, donc notre invité politique ce sera Barbara Pompili. Tac, tac, tac. Hop. Eh, vous savez quoi? On va faire un raid chez Ponce. On va faire un raid chez Ponce parce que Ponce, il fait son podcast qui s'appelle Pot de fleurs sur l'écologie. Dis donc. Et il est avec Maudit et Rivenzi. On va faire un raid, moi je dois y aller, j'ai du boulot. Merci à toutes et à tous. Donc, bah, en plus, ça vient de commencer, donc c'est cool. Passez une bonne émission sur la chaîne de Ponce avec Maudit et Rivenzi. Ils vont parler écologie. Mettez-vous bien. Très très cool qu'ils fassent un pot de fer sur ce sujet. Je vous fais des bisous, merci d'avoir été là. Et on se retrouve demain donc pour Backseat à partir de 19h. Merci d'avoir été là, à très bientôt. Merci Gizmo TV pour ton resub, merci mec. À très bientôt, ciao, bye.